Hein, avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, avec bien sûr l'équipe Sigrid Azeroual, Delphine de Diadouce, Romain Dubrac, Nicolas Benita et l'enseignante championne de grammaire. Bonjour Marie-Christine Aubin.
Bonjour Emmanuel.
Ah, je peux vous dire que vous êtes repérée avec vos leçons de grammaire. Tiens, voilà, une question d'un auditeur à Kinshasa. J'avais envie de vous poser des questions pièges aujourd'hui. Postez sur notre compte WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Écoutez-le.
Je réponds au nom d'Imbi et Chikuna. Je suis étudiant en GD droit à l'Université Libre de Kinshasa. J'aimerais juste savoir quand est-ce que faut-il utiliser un adverbe dans une phrase vraiment. Parce que j'ai un peu de problème à utiliser un adverbe au cours d'une phrase.
Alors, qu'est-ce qu'on répond à Mbillé ? Quand est-ce qu'il faut utiliser un adverbe dans une phrase ? Juste une question, une réponse simple.
L'adverbe, c'est celui qui complète, qui précise le verbe.
Oui.
Donc, il accompagne toujours un verbe. C'est l'équivalent de l'adjectif qui, lui, accompagne toujours un nom, qu'il soit nom commun ou nom propre. Donc, ce sont les adverbes. Et l'adverbe, lui, il se jette dans les bras du verbe.
Exactement.
Donc, normalement, il doit y avoir un verbe à proximité.
Donc, pour bien utiliser, alors ça peut être, je sais pas, donnez-nous un exemple, Marie-Christine.
De n'importe quel adverbe.
Oui. Tu chantes joliment.
Voilà, tu chantes joliment.
Voilà, hein.
Donc joliment.
Donc ça veut dire qu'on peut répondre à un billet que l'adverbe, il est très important pour donner plus de précision au verbe. Hein.
Voilà, c'est ça. Il permet de définir plus précisément le verbe.
Voilà.
Donc il se trouve obligatoirement à proximité du verbe.
Bon, on referme la parenthèse. On a répondu à un billet qui est à Kinshasa. Aujourd'hui, pas de grammaire, Marie-Christine, mais la suite d'une leçon sur les animaux. Parce que la dernière fois, vous nous avez expliqué la différence entre les animaux vertébrés et invertébrés. Et d'ailleurs, la leçon a été bien comprise par un très très jeune voisin à Brazzaville.
Bonjour la maîtresse Marie-Christine, je m'appelle Leco Visley, j'ai 6 ans. J'ai retenu les invertébrés ont pas la colonne comme nous, mais les invertébrés ont la colonne comme nous. Merci madame la maîtresse et au revoir.
Eh ben voilà, Wesley a tout compris. Aujourd'hui, retour sur les invertébrés avec vous, Marie-Christine. Donc, ceux qui n'ont pas la colonne vertébrale, comme nous a dit Wesley.
Ils sont nombreux.
Et pourquoi vous choisissez les invertébrés? Parce que je sais que vous m'avez dit, ah oui, on n'insiste pas assez sur les invertébrés à l'école. On parle toujours des éléphants, des lions, des chiens, des chats.
Voilà.
C'est des vertébrés, ils ont bien une colonne, hein.
Oui, ils sont tout à fait avec une colonne vertébrale. Et si on prend une vertèbre de baleine, par exemple, on peut l'utiliser comme fauteuil, comme pouf.
Un message de José Akotonou au Bénin. Tous les insectes sont-ils des invertébrés?
Oui, tous les insectes sont des invertébrés et je vais en parler aujourd'hui.
Le coléoptère, invertébré également.
Absolument, c'est une espèce d'insecte, parce que dans la famille des insectes, il y en a plein de sous-familles.
Gani à Kaolack, au Sénégal. Ah, les animaux, je les adore, surtout les reptiles. Bon, eh ben écoutez, on va être bien attentif, hein, Marie-Christine. Alors, le matériel aujourd'hui, que faut-il préparer?
Son corps, simplement, ses oreilles.
Peut-être.
Et de quoi dessiner? Oui, c'est vrai, on va dessiner une magnifique étoile de mer.
Ensuite, l'histoire du jour, après la leçon. Un conte créole, Tijan et la diablesse. Et enfin, la chronique de Joël Alarcon pour les enfants qui appréhendent un peu la rentrée en sixième, le secondaire. C'est un vrai nouveau monde pour les élèves. Comment les rassurer quand on est parent? Et puis, spéciale dédicace, un message pour l'enseignant Ibrahim Agassarid, dans le nord du Mali, qui était dans notre émission ce lundi. Je sais qu'il nous écoute tous les jours. Un message d'Ismaïla à Nouakchott en Mauritanie, qui dit « J'ai vraiment adoré la leçon d'Ibrahim. Quelle leçon de ouf! Grâce à son expérience, il nous a expliqué tout sur le rectangle avec la porte. Et on a retenu aussi pas mal de mots, comme la taille, le poids des pierres. Tout simplement magnifique. Et puis, deux anniversaires à souhaiter. Joyeux anniversaire à exaucer Winner, et puis ce 26 juin 2020, les 60 ans de l'indépendance de Madagascar.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Marie-Christine Aubin, c'est parti pour cette leçon sur les invertébrés. On ne pourra bien sûr pas les passer tous en revue. Vous nous parlez des mollusques d'abord. Qui sont ces animaux?
Alors, ce sont des... Dans ce mot mollusque, nous reconnaissons l'adjectif mou, molle. Les mollusques ont tous un corps mou, mais qui n'est pas composé d'anneaux. Certains n'ont pas du tout de coquille comme la limace, mais la plupart ont une coquille calcaire, visible ou cachée. Ils vivent aussi bien sur la terre que dans l'eau, que ce soit dans la mer ou dans les rivières, lacs, étangs.
Alors, il y a énormément d'espèces de mollusques, je crois.
Oui, 70 600 espèces connues. Oui. J'insiste, déjà connu, divisé en 7 sous-espèces. Mais je ne vais vous parler que de 3 de ces sous-espèces. Alors, vous en mangez certains. Les huîtres, les moules, les coques, qui se disent pagne en wolof. Ceux-là font partie de la famille des bivalves, c'est-à-dire ceux qui ont 2 coquilles qui s'ouvrent pour laisser l'animal se nourrir du plancton. Alors, je vous suggère de mettre vos mains face à face, poignée contre poignée.
D'accord,
et vous les ouvrez comme si en gardant les poignées collées.
C'est ça, donc on colle les mains comme si on priait et on ouvre. Et donc, ça fait comme un V avec les mains, c'est ça?
C'est ça. Alors, vous pouvez les ouvrir, les fermer.
Oui.
Et si vous baillez quand elles sont ouvertes, si vous baillez en même temps, vous serez l'huître qui baille.
Oui.
Celle que l'on ne mange pas, si sortie de l'eau, elle ne se referme pas immédiatement.
Voilà. Alors ces mains qui s'ouvrent comme ça, c'est le mouvement des mollusques qui mangent.
Voilà, ils ouvrent, ils ferment leurs 2 coquilles.
Voilà, essayez les enfants, vous allez mieux comprendre comment se nourrissent les mollusques.
Alors vous connaissez aussi l'acatine.
Alors pas du tout.
Sur terre.
L'acatine.
Alors, vous ne connaissez pas l'acatine, c'est cet énorme escargot qui vit en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, et qui fait le délice des personnes qui les trouvent dans la brousse.
Voilà, ça se trouve dans les forêts, oui, je vois maintenant.
Voilà, énorme escargot.
Énorme, oui.
Voilà.
Et on collectionne bien sûr souvent les coquilles de ces acatines qui sont des coquilles assez dures.
Oui, et puis qui font bien 15 cm. Ouais.
Très joli coquillage.
De longueur.
Alors ça fait partie de quelle famille l'acatine, alors, ces gros escargots?
Des gastéropodes, c'est-à-dire des estomapiers, si on traduit ce mot du grec, dont le corps mou rentre dans une seule coquille en forme de spirale. Mmh. Alors le mot gastro, vous le connaissez tous parce que c'est le nom du médecin qui sait tout sur les maladies de l'estomac, le gastrologue.
Mmh. Alors, dans les gastéropodes, il y a aussi un autre mollusque qu'on appelle le yète.
Voilà, et qui rentre dans la composition du tieboudien sénégalais.
Alors là, c'est plutôt un mollusque qui vit dans la mer.
C'est un escargot de mer, oui. Mmh. Enfin, moi, je ne l'ai jamais mangé, mais je suis prête à goûter, si on m'en offre. Alors, moi, je suggère un petit dessin. Un petit dessin amusant. Donc, vous allez dessiner l'estomapier. Alors, l'estomac de l'homme, il ressemble au nid de tisserin que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est ce nid avec un tube et une grosse poche en bas qui est suspendue aux branches des arbres, au moins en Afrique de l'Ouest, d'après ce que j'ai vu, moi. Alors, vous allez dessiner ce nid de tisserin, cet estomac, posé sur le dessin de votre pied.
Ah oui, c'est spécial, d'accord.
Ouais. Oui.
Donc, je dessine le nid et je dessine le pied et ça nous donne...
Un gastéropode, parce que le nid, c'est parce que vous le connaissez tous, c'est plus facile que de connaître l'estomac que vous n'avez certainement jamais vu.
Et voilà, donc c'est un estomac posé sur un pied, traduction littérale du grec ancien. On garde toujours la feuille parce qu'on va avoir d'autres dessins, Marie-Christine.
Oui.
Alors,
ils
on
peuvent
reste toujours
un petit escargot dans l'estomac, comme ça ils se souviendront mieux de gastéropodes.
Voilà. On reste toujours chez les mollusques, hein.
Oui, toujours. Alors, on va parler du poulpe, de la seiche, du calamar, qui vivent dans la mer et qui font partie, eux, des céphalopodes, les têtes-pieds.
Donc, ce n'est plus les gastéropodes, c'est les céphalopodes.
Oui, ça s'écrit C-E, accent aigu, P-H-L-O-P-O-D-E-S. Alors, céphalo, c'est la tête. Quand on a mal à la tête, on peut dire aussi qu'on a une céphalée. Mmh.
Et ça vient du grec aussi. Oui.
Ça vient du grec. Et podo, c'est le pied.
Donc, les têtes-pieds, si on traduit.
Voilà. Alors, la poulpe que vous mangez, hein, c'est très bon à manger. La seiche, le calamar, ce sont trois mollusques que l'on mange couramment à travers le monde. Alors, le poulpe, lui, il a 8 tentacules, tandis que la seiche et le calmar, ils ont 10 tentacules autour de la tête et ils ont une poche d'encre qui leur permet d'échapper à leurs prédateurs. Alors, ils vident cette poche à encre, donc ça fait un nuage noir. Mmh. Et l'animal, un poisson souvent, oui, qui les
aveuglé.
Attaque,
mmh,
ne les voit plus. Eh oui. Ils disparaissent dans ce nuage. Mmh. Et alors, cette encre est très bonne. Enfin, au Portugal, en Espagne, mmh, on fait la seiche, on fait des recettes avec l'encre de seiche. Mmh.
Donc ça, ce sont des céphalopodes, les têtes-pieds, hein, on est bien d'accord. Après,
oui.
Après, les estomacs-pieds, les gastéropodes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on découvre avec vous, Marie-Christine, sur ces mollusques ?
On va arrêter là pour ces trois familles de mollusques. Alors, je répète, il y a les bivalves, les gastéropodes et les céphalopodes. Donc, ce n'est que trois espèces sur 7 sous-espèces. Alors, maintenant, on pourrait passer aux échinodermes. Du grec échino, qui veut dire hérisson, et dermo, qui veut dire la peau. Donc, tu retrouves le mot dermo quand tu as une maladie de peau, oui, et que tu vas la soigner chez le dermatologue.
Oui.
Alors, ces échinodermes ont leur squelette dans la peau.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est ce que ça veut dire.
Oui.
Donc, ils vivent exclusivement dans la mer. Et il y en a que vous connaissez peut-être, qui sont les oursins.
Oui,
alors,
ça
l'oursin,
pique.
C'est qui est une boule piquante et qui est un plat de luxe en France.
Mmh. D'où la relation avec le hérisson. C'est comme un hérisson de mer, finalement.
C'est un hérisson, c'est une boule couverte de piquant.
C'est ça.
Alors, il y a plein d'espèces parmi les oursins, avec des piquants différents les uns des autres.
Ouais.
Certains sont utilisés en collier, dans des colliers. Leurs piquants sont gros et on peut les récupérer et les mettre à l'intérieur d'un collier. Alors, on a aussi les concombres de mer ou holothurie, qui sont pêchés en partie sur la côte ouest de l'Afrique pour être vendus en Asie pour la cuisine et la médecine. Et parmi les échinodermes, on a aussi les étoiles de mer, dont la majorité ont 5 bras. Alors, elles ne se mangent pas, mais elles sont ramassées pour la décoration.
Ouais. On peut peut-être les dessiner, non, ces étoiles de mer ?
Voilà. Alors, j'en ai trouvé une qui s'appelle la Liudia senegalensis.
Oula.
Donc, c'est une étoile de mer qui vit dans l'océan Atlantique qui borde le Sénégal.
Alors, redites-nous le nom de cette étoile de mer, Marie-Christine.
Liudia senegalensis.
Oui, d'accord. Liudia, donc. Et comment ? Alors, elle a combien de branches, celle-là ?
Celle-là, elle en a 9. Alors, je vous disais que la plupart en ont 5 bras, mais celle-là, elle en a 9. Donc, je vous suggère de la dessiner parce qu'elle est superbe. Elle est bleue avec un trait bleu foncé au milieu du bras et sur le centre. Et elle a des petites pattes orange.
On va mettre une photo sur notre compte Instagram. Hein. Allez, oui, faire un petit tour. Donc, la Liudia senegalensis, c'est ça, hein ?
Voilà, Voilà, elle vit au large dans le sol Atlantique.
Alors, on la dessine, Marie-Christine, parce que vous savez que l'heure passe. Hein, et vous,
voilà.
On fera
oui,
pas...
parce qu'on a beaucoup de choses importantes aussi.
Oh là,
aussi,
bah oui,
hein,
non, mais
dire.
Ça, avec les centaines de milliers de variétés d'invertébrés, on n'est pas rendu. Alors, on dessine cette étoile de mer. Donc,
alors,
comment
vous allez mettre votre main sur la feuille.
D'accord.
Vous allez bien écarter vos doigts.
Oui.
Et vous allez demander à une autre personne, ou vous essayez de la faire vous-même, vous tracez le contour de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire.
Oui.
Les quatre grands doigts. Vous
donc on
vous
enlève le pouce, hein.
Pouce.
D'accord.
Voilà.
Donc on a quatre doigts. Vous nous avez dit il y en a sept. Sept branches à l'étoile de mer.
Non, neuf branches.
Neuf.
Alors, une fois que ce contour est fait... vous déplacez d'un doigt vers la droite vos doigts.
Ouais.
Donc vous avez le contour des quatre doigts, vous sautez, vous la poussez vers la droite.
C'est ça.
Donc vous aurez trois doigts sur les premiers dessinés.
Ouais.
Et vous allez tracer le contour de l'index, de l'auriculaire. Vais-je y arriver ? De l'auriculaire.
C'est ça. Donc, on a déplacé la main et on continue de se servir des doigts pour dessiner les contours qui sont les branches de l'étoile de mer.
Donc, maintenant, vous tournez la feuille.
Oui.
Vous reposez vos quatre doigts. Alors, vous faites bien attention de faire bien la jointure, la liaison avec les cinq doigts déjà dessinés. Et vous retracez les quatre doigts. Normalement, vous devez avoir une étoile de mer à neuf branches si vous avez bien placé vos doigts.
On a bien compris le principe, Marie-Christine. L'heure tourne. Je pense que les enfants sont en train de terminer leur dessin. Et bien sûr, il faudra le colorier, faire une belle étoile de mer en fonction des caractéristiques que vous a indiquées Marie-Christine, la très belle couleur bleue.
Oui.
Et ensuite, Marie-Christine, on passe aux arthropodes.
Externe et des pattes articulées. Arthropode vient du grec arthros, articulation, mot que vous connaissez. Quand les personnes âgées qui vous entourent se plaignent de souffrir d'arthrose ou d'arthrite, maladie qui bloque leurs articulations. Ou quand vous faites de la danse hip-hop, surtout de la breakdance, et que vous sollicitez toutes les articulations de votre corps.
Mmh.
Donc, dans arthropode, on retrouve à nouveau le mot podos, qui veut dire le pied. Alors, il existe plus d'un million et demi d'espèces réparties en quatre sous-familles. Ce sont le groupe d'animaux les plus importants en quantité au monde. Et ils ont une importance très grande. Alors, il y a la famille des insectes qui ont une enveloppe rigide. Ils ont une tête, un thorax, auquel se rattachent trois paires de pattes articulées et un abdomen. Ils ont deux ailes comme les mouches, ou quatre ailes comme les papillons, ou pas d'ailes comme les poux ou les puces.
Mmh.
Les scientifiques en ont déjà déterminé près de 1,3 million d'espèces. Les insectes forment 85% des animaux existant sur la Terre.
Ça, c'est vraiment un chiffre à retenir tout de même, Marie-Christine. Ces insectes qui forment 85% des espèces d'animaux sur Terre, ce sont des insectes. On devrait beaucoup plus les étudier, vous avez tout à fait raison. Alors, dans ces insectes, il y a le moustique qui transmet la malaria ou le paludisme, la mouche tsetse qui transmet la maladie du sommeil, la tique aussi qui transmet la rickettsiose. Et puis, il y a aussi les fameux criquets dont on parle beaucoup dans l'actualité et qui nous inquiètent tous.
Oui, parce que ils s'abattent en nuages qui comptent jusqu'à 1 million de ces criquets. En quelques heures, ils dévorent toutes les plantes, dont les plantes alimentaires. Je viens de lire un article du 10 juin dernier sur ce problème au Pakistan, où ils sont en plein problème avec ces criquets.
Ouais, c'est un problème d'ailleurs en Asie et aussi en Afrique de l'Est. Hein.
Et aussi, je viens de le lire, en Amérique du Sud, là en ce moment, ils sont infestés de la Bolivie. Le Paraguay et l'Argentine du Nord sont ravagés en ce moment même, ces jours-ci, par des nuages de criquets.
Alors, heureusement, tous les insectes ne sont pas nuisibles, ne transmettent pas des maladies, ne ravagent pas les cultures. Il y a aussi des insectes extrêmement utiles qui aident l'homme, Marie-Christine.
Oui, il y a tous ceux qui pollinisent les plantes, parce que sans eux, on n'aurait pas à manger. Parce que les plantes se forment, enfin les fruits, les graines se forment par pollinisation. Donc, c'est comme un mariage entre garçons et filles. Donc, les insectes sont essentiels pour la pollinisation.
Et effectivement, on a eu une leçon de Gérard Sansfaute sur les abeilles et on a compris à quel point elles étaient vitales. Donc, on a vu déjà pas mal d'insectes, le papillon aussi.
Oui, le papillon, parmi les trois plus grandes espèces de papillons au monde, il y a le papillon de la reine Alexandra qui vit en Guinée. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, il mesure 30 cm de large quand il ouvre ses ailes.
Ouais,
donc c'est énorme. Hein.
Ouais.
Oui, c'est énorme. Alors est-ce qu'on peut faire un concert ?
Un concert, Marie-Christine ? Mais avec quels instruments ?
Oui. Oh ben avec simplement nos bouches respectives.
Oui, d'accord.
Moi, je pense qu'on peut imiter le moustique quand il vient nous embêter.
Oui, ça d'accord. Oui, je vois bien. Ouais.
La mouche, quand elle est prise dans la toile d'araignée.
Oui.
Ouais. Et l'abeille. Quand elle vole là autour du calice des fleurs. Et le criquet qui fait cric, cric.
Ah ouais,
ça
vous le faites. Ah, vous le faites très très bien dans le téléphone, ça le cliquez, Marie-Christine. Vous allez donner des cauchemars à certains de nos auditeurs. Et alors maintenant, on mélange tout ça et ça donne un concert d'insectes à l'école à la radio.
Voilà.
Ah, c'est pas aussi bien que vous, hein, quand vous. Oula.
C'est les sables d'abeilles, hein, je le reconnais.
Extraordinaire. Merci Marie-Christine. Alors, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. On va parler des arachnides quand même.
Oui. Rapidement. Parce que dans les arachnides, c'est le mot araignée en grec.
Eh oui, les fameuses araignées.
Voilà. Alors, ils sont recouverts d'une peau dure formée de chitine. Eux, ils ont 4 paires de pattes articulées. Ils ont 8 pattes, à la différence des insectes qui n'ont que 6 pattes et à la différence des crustacés qui ont, eux, 10 pattes. Alors, les crustacés, ce sont les crabes, les homards, les langoustes que vous mangez probablement. Donc, pour en revenir à nos araignées, à nos arachnides, j'insiste un peu sur eux parce que certaines araignées peuvent être dangereuses à cause de leur venin. Enfin, il y a quand même 48 000 espèces différentes d'araignées sur Terre.
Vous nous aviez parlé de la migale velue, la migale velue dans un conte, la cruche maison.
Oui, vous l'aviez fait dessiner. Voilà, donc vous retrouvez le dessin et puis vous redessinez la migale velue. Il y a aussi un autre arachnide qui peut être mortel pour l'homme ou tout au moins causer des douleurs terribles quand il pique, c'est le scorpion. Donc il y a quand même 1500 espèces de scorpions. Alors le scorpion, il pique, c'est comme beaucoup d'animaux, ne pique que lorsqu'il se sent en danger. Donc par exemple en Algérie et au Maroc, il y a 80 000 personnes qui se font piquer par un scorpion par an. Et il y en a 100 à 200 qui en meurent. Alors, de ce que j'ai lu, la piqûre des scorpions des forêts d'Afrique peut être très douloureuse, mais ne serait pas mortelle. Par contre, celles des scorpions du Niger sont mortelles. Alors, à l'heure actuelle, les scorpions d'Afrique sont encore très mal connus. Et j'espère qu'il va bien se trouver parmi vous, les enfants, des futurs chercheurs qui vont se consacrer à cet animal qui peut être très dangereux pour l'homme.
Oui. Et puis surtout, maintenant que vous nous avez dit que 85% des animaux sur Terre sont des insectes, hein, et parmi ces insectes, en effet, il y a bien les arachnides et dedans les scorpions, effectivement, il faut s'y intéresser de beaucoup plus près parce que probablement que c'est là qu'il va y avoir des changements importants dans les années à venir, Marie-Christine, notamment avec le changement, le réchauffement climatique.
Oui, parce qu'effectivement, on a des moustiques qui arrivent en France qui sont porteurs de malaria
Alors,
ça remonte.
Là, on a parlé d'arachnides que l'on voit aisément à l'œil nu.
Oui, alors il y a ceux qui sont aussi pas sympas, qui sont les acariens microscopiques, qui adorent vivre au chaud dans nos lits ou dans d'autres coins de la maison, mais surtout dans les lits, et ils détestent les personnes qui se permettent de secouer la literie tous les matins et d'étendre draps et couvertures au soleil, parce que cela les tue. Mais il faut vraiment faire ça, parce que certains de ces acariens provoquent des allergies chez certaines personnes, et les personnes sont vraiment en mauvaise santé à cause d'eux. Et parmi ceux-là, ces fameux acariens microscopiques, il y a le sarcopte qui provoque la gale, qui est une maladie très contagieuse, qui provoque de très fortes démangeaisons lorsque la femelle creuse des galeries dans la peau durant la nuit.
Ouais. Alors vous voyez, on est revenu finalement à des petits animaux pas sympathiques du tout là. Hein.
Oui, il y en a des sympas, il y en a des pas sympas, c'est comme chez les êtres humains.
Et alors, on a quitté les arachnides, là, maintenant, et on arrive aux crustacés.
Crustacés, parce qu'ils sont recouverts d'une coque dure, d'une croûte. Crusta, en latin, c'est la croûte. Parce que certains, ils ont une carapace calcaire, comme les crabes, les homards, les langoustes, tandis que d'autres ont une enveloppe dure composée de chitine, comme les crevettes, les langoustines.
Beaucoup plus souple. Alors,
oui. Alors, les crustacés ont 5 paires de pattes articulées, soit 10 pattes, dont les deux premières forment une pince.
Voilà pour la famille des crustacés qui se mangent, qui sont très bons. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste, Marie-Christine ? Il nous reste très peu de temps.
Les myriapodes.
Les myriapodes.
Ce mot vient des mots grecs myria, qui veut dire mille, et podos, qui veut dire pied.
Alors myria, ça s'écrit M-Y-R-I-A.
Voilà. Ces insectes ont une enveloppe de chitine et sont composés d'une tête suivie de nombreux anneaux, portant chacun une ou deux paires de pattes.
Ça se mange, les myriapodes?
Non, aucun. Enfin, non, à ma connaissance, aucun. Par contre, il y en a qui peuvent avoir des piqûres venimeuses.
Oula.
Alors, plus l'animal a d'anneaux, plus il a de pattes. Le record étant 750 paires de pattes.
Ah oui.
Alors, on les appelle les mille pattes, langage courant.
D'accord, donc je comprends, j'aurais pas dû vous demander si ça se mangeait, en effet.
Alors, ce sont les mille pattes dans lesquelles je peux vous transformer en mille pattes.
Oui, mais ça veut dire que les mille pattes, Marie-Christine, donc ce ne sont pas des insectes. Hein.
Non, ce ne sont pas des insectes, ce sont des arthropodes.
Oui.
Donc là, il y a 5 familles, parce qu'il faut que ce soit clair, ça. Les arthropodes sont composés de 5 familles. Donc, dans ces familles aux pattes articulées, nous avons les insectes, les arachnides, les crustacés, les myriapodes.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Christine. C'est vrai qu'il faudrait encore des dizaines et des dizaines de leçons pour avancer dans ces 18 familles d'animaux. Là, on était dans le camp des invertébrés, ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Merci beaucoup. Un message d'Issatou à Banjoul, en Gambie, qui nous dit merci pour la leçon. Emmanuel, c'est pour te dire, j'ai appris aujourd'hui ce que je n'ai jamais appris et connu depuis mes années où je faisais l'école, et même en grandissant, comme le nom de tous ces animaux invertébrés. Allez, Marie-Christine, on va se retrouver très bientôt pour parler de grammaire, parce que vous savez que les auditeurs vous attendent hein, sur la grammaire.
Oui.
On vous souhaite une très, très belle journée au village. On n'a pas entendu votre coq aujourd'hui, je suis déçue. Hein, mais c'est vrai
on
était sur les invertébrés. Alors bon, ils ont bien une colonne vertébrale, les coqs, non ?
Absolument, ce sont des vertébrés, hein. ils sont pleins d'os. Hein.
C'est ça. Dans quelques instants, un conte créole. Attention, il va y avoir des sensations. Ce sera juste après Everyday Boom Cello. Merci à vous, Marie-Christine.
Au revoir, Emmanuel. Au revoir.
Everyday, I go to work.
RFI, l'école à la radio chez 7 milliards de voisins. Et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Auria, inspirée d'un conte créole, Tijan et la diablesse.
Je vais peut-être une fois. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
Tijan et la diablesse. Un conte d'Isabelle et Henri Cadoré. Collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. Il y a très longtemps, en Martinique, vivaient un homme et une femme très pauvres. Quand leur 13e enfant naquit, il était si petit qu'ils l'appelèrent Tijan. Une dame très riche et sans enfant habitait dans la commune voisine. Elle vint les voir et leur dit « Laissez-moi être sa marraine. Il habitera une grande maison. Il ne sera pas seul car j'ai d'autres filleuls. Il portera de beaux vêtements et mangera du poisson et de la viande tous les jours. » Les parents de Tijan l'aimaient et parce qu'ils l'aimaient, ils le donnèrent à cette dame si riche. Ils pensaient que Tijan serait heureux puisqu'il ne manquerait de rien. La marraine emmena Tijan. Elle habitait une grande maison à étages avec une belle véranda tout autour. Tous ses filleuls vivaient librement sur le domaine. Ils grimpaient aux arbres, cueillaient des goyaves, des mangues, des noix de coco. Ils allaient à la pêche, relevaient les nasses remplies de poissons. Ils plongeaient et ramenaient des langoustes et des oursins blancs. Tijan rencontra un bébé requin. Ils devinrent amis. Les enfants aimaient Tijan qui était généreux et courageux. Pourtant, aucune tendresse, aucun amour n'avait pu fleurir dans son cœur pour cette marraine si belle et si riche. Le jour de leurs 12 ans, les enfants disparaissaient. Ce jour-là, la marraine allait rendre visite à son mari qui habitait dans un îlet, une petite île. Un midi, elle revint de l'îlet avec le plat préféré des enfants, du matoutou crabe. Tijan mangeait avec appétit. Il prit une pince de crabe et mordit dedans. Il la trouva bizarre, la regarda de plus près. Oh ! C'était un doigt d'enfant. Il sortit discrètement de table et courut vers la plage. Il enterra le doigt au pied d'un cocotier et posa dessus un coquillage, une belle conque de lambi. Une petite voix sortit de terre.
« Merci, merci, Tijan. Je suis Joseph. Notre marraine est une diablesse. Son mari est un vieux diable. Il nous tue pour nous manger. »
Alors, Tijan se mit à surveiller sa marraine. Un matin, elle sortit de la maison en portant un sac sur le dos. Il la suivit. Ils arrivèrent près d'une plage lugubre. Sa marraine riait d'un rire féroce. Ni plantes, ni oiseaux, ni coquillages. Juste un bateau de pêche, une yole, rouge comme le sang. Elle mit le sac dans la yole, releva sa grande robe blanche et se déchaussa. Tijan vit ses pieds. Le pied droit était un pied humain, mais le pied gauche était un pied de bouc. Tijan frissonna. Sa marraine était une diablesse. Elle poussa toute seule sa yole à la mer, sauta dedans. Elle ne prit pas de rame, elle ne hissa pas de voile, mais elle prit sous le banc un fouet. Elle cingla la yole en criant « Taïo kiliglé ! Taïo kiliglé !» Et la yole bondit sur les vagues comme un cheval fougueux. Tijan plongea, puis appela son ami le requin. Il saisit son aileron et se laissa glisser dans le sillage de la yole. Près de l'îlet, ils se cachèrent derrière des rochers. La marraine échoua la yole sur le sable, jeta le fouet et éclata de rire. Alors un énorme diable tout blanc, qui fumait une pipe en os, accourut. Tijan et le requin en avaient assez vu. Ils partirent. Lorsque la marraine revint chez elle, elle s'endormit aussitôt. Chaque fois qu'elle revenait de l'îlet, elle dormait ainsi, d'un sommeil de plomb. Tijan en profita pour réveiller ses compagnons endormis. Il allait de chambre en chambre en disant « Debout, debout, partons, partons! Notre marraine est une diablesse! Son mari est un vieux diable! Si nous restons, ils nous mangeront !» Tous se levèrent et quittèrent la maison sans bruit. Tijan prit le fusil de la diablesse pour tuer le diable. Il emmena ses compagnons à la plage lugubre. Le requin les attendait là. Tout le monde s'embarqua dans la yole ensorcelée. Tijan saisit le fouet et cingla la yole en criant « Taïo kiliglé ! Taïo kiliglé !» et la yole bondit sur les vagues comme un cheval fougueux. Le requin ouvrait la route, l'air était doux et parfumé, la lune brillait sur la mer. L'îlet, avec sa plage bordée de cocotiers, apparut dans la clarté dorée de la lune. Une silhouette arpentait la plage. C'était le vieux diable. Il reconnaissait la yole, mais ne reconnaissait pas sa femme. Pour mieux voir, il s'approcha de l'eau. Tigeant visa et tira. Le vieux diable s'écroula dans la mer et se transforma en écume balayée par le vent. Au même moment, la marraine se réveilla en sursaut. Elle se leva et se rendit dans les chambres des enfants. Tout était vide. Elle courut à la plage lugubre. Plus de yole ensorcelée. Elle poussa un tel cri de rage que la lune en trembla dans le ciel. Elle se précipita sur la yole des enfants et hissa la voile. Elle était tellement en colère qu'elle ne pensa plus aux écueils qui gardaient l'îlet. La yole se brisa en deux sur les rochers. La diablesse, qui ne savait pas nager, se noya et se transforma en écume balayée par le vent. Sur l'îlet, les enfants trouvèrent l'or du vieux diable et de la diablesse. Ils le partagèrent et retournèrent vivre chez leurs parents.
La mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auréat. Tigeant et la diablesse est inspiré d'un conte créole écrit par Isabelle et Henri Cadoré. Collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. Et on retrouve maintenant les conseils de Joël Alarcon pour les parents.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Nous sommes ensemble pour l'école à la radio et comme chaque fin de semaine, Joël Alarcon est avec nous pour donner des conseils aux grands, aux parents, à tous ceux qui aident les enfants. Bonjour Joël.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychopédagogue et aujourd'hui une question, toutes les angoisses autour de la rentrée en sixième. Alors c'est vrai d'autant plus cette année que des millions d'enfants dans le monde ont été déscolarisés ou le sont toujours à l'heure où nous parlons, notamment énormément sur le continent africain. Et on peut imaginer bien sûr que la rentrée se fera dans des conditions normales et certains vont changer d'école, ils vont quitter l'école primaire pour arriver à l'entrée au collège ou au lycée. Dans certains pays, on passe même un examen pour avoir le droit d'entrer dans le secondaire. Et tout ça, ça suscite quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses chez les enfants qui sont encore petits, qui ont une dizaine d'années, 11 ans, 12 ans, ça dépend des systèmes.
Et oui, ça engendre beaucoup d'inquiétudes, surtout s'il y a déjà un tempérament anxieux.
Oui.
On constate vraiment que ça se passe dans la majorité des cas, j'ai envie de dire, dans plus de 90% des cas, ça se passe très très bien la rentrée en sixième. C'est un cap, certes. Et une forme d'initiation aussi, ça y est, je deviens grand ou grande, mais ça se passe souvent très bien. Quand il y a un tempérament déjà un peu anxieux, à ce moment-là, il faut être un petit peu plus vigilant, et c'est surtout pour ces enfants-là que cette chronique voilà, est réalisée. Et ce qui est important aussi à dire aux parents, c'est que finalement, peut-être aussi que vous vous replongez dans votre propre rentrée en sixième à vous, il y a quelques années, et que vous revivez un peu aussi les émotions que vous ressentiez à ce moment-là. Et
oui.
Peut-être que ce n'est pas très agréable.
Et ça veut dire que c'est ça, pour que si pour certains parents, l'entrée en sixième s'est mal passée, ça ne veut pas dire que pour leur enfant, ça va mal se passer. Donc, il faut un peu mettre de côté sa propre histoire. Donc.
Et parfois, on ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'on va essayer de rassurer son enfant en fonction de ses propres angoisses. Et de ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise quand on était petit. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la même personne, c'est un autre enfant.
Ouais, donc,
c'est important de ne pas le projeter. Ça.
C'est ça, ça veut dire qu'en tant que parent, il faut se dire « Ouh là là, est-ce que je ne suis pas en train de trop bien me souvenir de ce que j'ai vécu et est-ce que je ne suis pas en train d'en tenir trop compte finalement pour en parler avec mon enfant ?» Quel conseil sinon on peut donner très concrètement si les enfants ramènent le sujet tout le temps pendant tous les mois d'été, là, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, moi, j'ai vraiment envie de dire il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il ne faut pas en parler tout l'été. Parce que ça va, les choses, plus on se cristallise dessus, plus on se bloque dessus, plus ça devient une montagne hyper effrayante. Et ne pas non plus tenter de rassurer votre enfant s'il ne vous demande rien.
Oui, parce qu'il va se dire, oh là là, mais pourquoi il me rassure ? C'est que ça a l'air terrible.
Tout à fait. On entend souvent des parents, quand ils amènent leurs enfants à l'école pour la toute première fois, par exemple, leur dire « Attention, t'inquiète pas, tu auras des copains, ça va bien se passer. » Mais l'enfant, peut-être, ne s'est jamais imaginé une seule minute qu'il allait ne pas avoir de copains. Donc là, ça peut dire « Ah bon, il se peut que j'ai pas de copains ?» Et hop, ça crée des angoisses.
Donc, on n'en parle pas trop.
On n'en parle pas trop. On n'essaye pas de rassurer. Par contre, s'il pose des questions, là, il faut y répondre. Là, il faut être à l'écoute. Donc, ne pas amener soi-même la conversation, mais être vraiment dans la réponse très concrète, très factuelle à des questions. Et pourquoi pas aussi passer régulièrement devant le collège pour que le lieu devienne familier aussi. Si c'est possible, évidemment, si c'est pas trop loin, dans l'été, y passer, pourquoi pas une fois par semaine, un peu comme ça, sans faire exprès, pour que voilà, le jour de la rentrée, ben, ça soit juste une fois de plus.
Ça peut être d'autant plus simple s'il y a déjà, évidemment, des frères et sœurs qui sont entrés dans le secondaire. Alors, tout de même, il y a des problèmes qu'il faut appréhender un peu à l'avance, parce que c'est vrai que c'est un vrai changement dans la vie de l'enfant, l'emploi du temps, les professeurs, les matières. Il n'y a plus rien comme avant à l'école primaire.
Non, il n'y a plus rien comme avant, à part qu'on est toujours le même, qu'il y a des grandes chances que l'on retrouve ses copains, qu'en plus, on vient devenir plus autonome. Ça y est, on passe dans la cour des grands. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a tout un tas d'adultes qui sont des personnes ressources, qui sont là pour aider, accompagner. On n'est pas lâché tout seul dans un endroit complètement inconnu. On est très accompagné. L'emploi du temps, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne va pas demander à un enfant de sixième de gérer un emploi du temps et de s'avancer sur ses devoirs en même pas 15 jours. Non, on va lui laisser le temps. Et c'est important aussi de comprendre comment s'organise un collège, quels sont les différents services, quels sont les différents interlocuteurs. Et ça, le collège se charge aussi en début d'année de l'expliquer, de faire les visiter, de rassurer.
Les parents peuvent aussi faire ce travail-là si jamais le collège n'a pas les moyens de faire toute cette pédagogie, de se renseigner, de demander peut-être à des grands frères et des grandes sœurs d'expliquer le fonctionnement du secondaire, du collège, du lycée aux enfants.
Voilà, il y a les grands frères, les grandes sœurs, il y a peut-être des voisins ou des voisines aussi qui sont passés par là, qui vont pouvoir expliquer. Et puis, de toute façon, se dire aussi que tous les collèges sont à peu près construit de la même façon. On a un professeur principal, par exemple, à qui on peut vraiment s'adresser en toutes circonstances, et se dire, voilà, avant toute chose, on n'est pas seul. Et surtout, tous les copains qui rentrent avec moi en sixième, que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas, en fait, eux aussi, ils ont un peu peur. Et c'est bien normal.
Oui,
je ne suis pas le seul à avoir peur.
C'est bien normal, en effet, avec n'importe quel changement, d'éprouver une forme d'inquiétude, que l'on soit enfant ou adulte, et ça va bien se passer. Voilà ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Joëlle Alarcon. On vous retrouve la semaine prochaine. Très, très bonne fin de semaine à vous, Joëlle.
Merci, au revoir.
Et quant à nous, on se retrouve lundi, suite de l'école à la radio, avec toute l'équipe. On sera en compagnie de l'enseignante Sarah Vauquier. Il y aura un conte aussi, et puis pour les plus grands en fin d'émission, l'histoire d'une héroïne du continent africain. Je ne vous en dis pas plus. Suspense jusqu'à lundi.
Milliards de voisins. C'est fini.
RFI présente